Seigneur notre Dieu, merci pour le temps que tu nous donnes maintenant de partager ta parole. Merci pour l'assemblée qui est là, qui a répondu oui à l'invitation. Merci pour le fait que chacun est venu avec ses attentes, avec ses besoins, avec ses questions. Merci parce que, Seigneur, tu sais parler à chaque cœur. Tu sais dire les mots exacts qu'il nous faut pour comprendre, pour savoir. Merci de visiter encore nos cœurs ce matin et de nous engager avec toi, Seigneur, sur cette route de la vie éternelle. Accorde-nous ainsi de goûter combien tu es bon, toi notre Dieu, et combien en réponse, nous voulons nous aussi t'exalter, te louer, vivre avec toi. Merci de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager donc un encouragement, une exhortation sur le fait d'être fidèle. Donc le thème c'est « sois fidèle à Dieu ». Nous avons ensemble avec Mathieu donc mis le thème de ce matin, de cette culte, sur la fidélité de Dieu. Et moi je démarre avec cette question, est-ce que nous avons, avant de pouvoir apprécier à quel point Dieu est fidèle, est-ce que nous avons une réponse à donner à ce niveau-là? Alors, la fidélité est quelque chose d'important dans la vie des êtres humains. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dites oui, hein, c'est le début du culte, vous n'êtes pas encore fatigué. Ah ouais, mais attends, si vous êtes déjà fatigué maintenant au début du culte, qu'est-ce qu'on va devenir à la fin du culte? Ah ben, dire oui, c'est pas grave. Hein. Est-ce que la fidélité est une chose importante dans la vie des êtres humains? Ah, je ne vous connaisserai pas, je ne vous demanderai pas pourquoi, mais je suis sûr. Mais juste entendre oui, si vous êtes d'accord. Quel est le point commun entre une cérémonie de mariage, une prestation de serment d'un chef d'État ou d'un gouvernement, ou une prestation de serment d'un militaire? Quel est le point commun? Il jure fidélité. Vous voyez, ça c'est des éléments qui montrent déjà à quel point c'est important. Les époux se promettent mutuellement fidélité, dans le meilleur et dans le pire. Je resterai. Je ne partirai pas. Je serai là. Les hommes politiques nous jurent fidélité. Non, pas à nous. Ils jurent fidélité aux lois du peuple. Ils disent, nous allons respecter l'esprit des lois. Et puis les soldats, ils jurent fidélité à la nation. Prêts à donner leur sang pour leur nation. La fidélité est quelque chose de très important dans notre société. C'est le gage même de la sécurité. Dans la Bible aussi, la fidélité est quelque chose de super important. Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle, c'est-à-dire Dieu tient toujours à sa parole. Ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. C'est ça qu'il fera. Dieu est fidèle parce que Dieu tient toujours à ses engagements. Il promet une chose, il va l'accomplir. Ça peut prendre du temps, mais il va l'accomplir. Dieu ne change pas. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qui sera dans un milliard d'années s'il le faut. On peut donc lui faire confiance. Voyez-vous, toutes ces choses que je dis, c'est pour commencer à placer déjà c'est quoi la fidélité. Et Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Parce que mes amis, c'est une denrée rare. C'est une perle rare. Un homme ou une femme fidèle. Regardez vous-même. Proverbe, chapitre 20. Je n'ai pas... Ça ira? Ah. Ah oui, tiens, voilà, je vois ça ici, ok. Proverbe, chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans ce sens, homme fidèle ou femme fidèle, ça veut dire quelqu'un de sûr, quelqu'un de loyal. Vous savez, c'est quoi la loyauté? Un homme, une femme loyale, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui va toujours respecter la relation, qui va toujours faire en sorte que la relation qu'on a avec ne soit jamais trahie, ne soit jamais affectée, qui va toujours être là. C'est ça un homme loyal, une femme loyale. La loyauté. Ici, un homme fidèle, une femme fidèle, c'est un homme, une femme sûre, sur qui on peut compter. Et l'on peut compter à tout moment, à toute saison, malgré toutes les épreuves, les difficultés de la vie, on peut compter sur cette personne-là. C'est quelqu'un en qui on a totalement confiance, quelqu'un qui ne trahira jamais. Et Dieu cherche ce genre d'homme et de femme. C'est d'ailleurs ça l'exigence de Dieu. Pourquoi Dieu cherche ce genre de femme? Parce que c'est ça l'exigence, c'est ça la condition pour pouvoir servir Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, regardez. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, comme des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, c'est qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité, c'est la principale qualité d'un serviteur de Dieu. La fidélité, c'est le fait d'être constant dans son travail. Je fais toujours le même boulot et je continue à le faire. Je ne me plains pas, j'avance avec ce boulot. Je le fais toujours d'une manière positive. Je continue toujours à servir. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les problèmes, malgré tout, je continue toujours à servir. Il y a cette idée de constance, pas seulement de persévérance, mais de constance. Toujours, toujours tourner vers la continuité. Et je vais ajouter un élément important ici. La fidélité, c'est aussi le fait de rester dans une ligne doctrinale. Un homme, une femme fidèle, va rester dans une ligne dans laquelle il s'est engagé. Si cette ligne doctrinale est claire dans son esprit, c'est ce qu'il va garder. Ici, par exemple, pour les chrétiens, pour nous, rester dans la ligne doctrinale, ça veut dire rester dans la saine doctrine. Rester dans l'évangile. Rester dans les prescriptions de la parole de Dieu. Ne pas s'écarter, ni en interprétation de travers, ni simplement en inventant des choses. Garder la ligne de la doctrine dans laquelle on a toujours avancé. Être fidèle, c'est donc être constant, c'est donc être sûr, digne de confiance. Quelqu'un qui fait toujours son boulot dans la continuité, qui continue à faire son travail. C'est ce qui apparaît dans les paraboles que je vais vous inviter à lire avec moi, la parabole des talents. Vous allez remarquer que l'appréciation du maître, c'est toujours bon et fidèle serviteur. Nous pouvons le lire dans l'ensemble. Matthieu chapitre 24, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, écoutez l'appréciation du maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Pourquoi? Où se situe ce parabole? Quelle est la place de cette parabole? Jésus exhorte à la vigilance dans cette parabole. Cette parabole fait suite à une autre parabole de 10 vierges que vous connaissez peut-être. Et il exhorte à la vigilance, étant donné que nous ne savons pas quand viendra la fin. Il disait, veillez, priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et donc, parce que nous ne savons pas quand viendra la fin, nous devons être vigilants, nous devons être debout, nous devons être actifs. Et la chose qui sera sanctionnée de nous, ce sera la fidélité. Autrement dit, au moment de la fin des temps, lorsque viendra notre comparution devant Dieu, ce qui va être évalué, c'est notre fidélité. Dans cette parabole, la fidélité fait référence à la persévérance et à l'engagement total. Juste une petite remarque, vous avez remarqué, il dit toujours « bon et fidèle serviteur ». J'aime beaucoup cela. La fidélité, ce n'est pas du légalisme. Ce n'est pas une attitude de peur et de crainte de quelqu'un qui dit « ouh, je dois faire attention parce que sinon, quick, parce que sinon, j'ai des soucis ». Ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, ce n'est pas le fait de dire « ok, je vais faire en sorte que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Non, ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité est une attitude, est un comportement où l'on exerce aussi la bonté, où la dimension de la bonté est prise en charge aussi. Alors peut-être, parce que Matthieu m'a quand même donné, c'est un exercice difficile, hein, demander quelqu'un de commencer à prêcher au matin comme ça, alors je suis tout chaud et que, hein, alors donc je me suis arrangé quand même pour écrire, parce que sinon je parlerai pendant des jours et des heures, et donc je me suis dit, voilà, je vais quand même écrire, comme ça je vais avoir quelque chose en tête et je serai un peu plus bref. J'ai envie ce matin que nous ayons envie d'être fidèles. Que ça soit une activité joyeuse, notre fidélité. Pas quelque chose de « ouh, l'enfer, ouh, je vais être jugé au tribunal de Dieu, alors je fais tout ce que je dois faire pour éviter le tribunal ». Non, ce n'est pas la peur du gendarme que j'aimerais. Mais j'aimerais que votre fidélité soit basée sur votre amour, sur le fait que vous savez que Dieu est fidèle, sur le fait que vous savez que Dieu est amour, sur le fait que vous savez que c'est quelque chose qui concerne votre propre vie. La manière dont vous avez choisi que votre vie s'oriente. Comment vous avez choisi que votre vie s'oriente. Arrêtons-nous un petit moment devant cette exigence divine. Cette exigence de fidélité qui est d'ailleurs propre déjà au caractère même de Dieu. Arrêtons-nous un petit instant. Le mot fidélité est un mot qui vient à la fois, est interprété à la fois en latin, en grec et en hébreu. En latin, fidélité vient du mot foi. Fides, fidei, qui est la foi. Et en grec, ça vient d'un autre mot qui lui ressemble aussi, le mot pistis, pistos. C'est un mot aussi qui veut dire aussi la foi. Donc la fidélité est un mot qui est en rapport avec la confiance. Avec le fait que il y a un rapport de confiance. Quelqu'un sur qui je peux faire confiance. En hébreu, Ce mot est en rapport avec un mot qui veut dire quelque chose comme solide, quelque chose comme un engagement, un élan solide. Et ce qui est fondé, ce qui est solide, ce qui est solidement fondé, ce qui est vrai. La vérité est en rapport avec quelque chose qui est vrai, qui est fondé, sur quoi on peut compter parce que c'est la vérité. C'est ça aussi en grec. Être fidèle donc, c'est respecter son engagement, plus encore l'honorer. Quelle est la différence? Je peux respecter mon engagement sans honorer mon engagement. Vous êtes d'accord avec ça? Tu seras marié, tu verras ça. Tu peux respecter tes engagements, mais tu peux aussi ne pas l'honorer. Je peux dire, ouais, formellement, je respecte mon engagement, je mets un anneau, je suis marié, je vais à la maison, j'accomplis mes devoirs, je suis à la maison avec ma femme, je sors, je calcule l'argent avec elle, mais je ne l'honore pas. Je n'honore pas mon engagement parce que simplement, de temps en temps, je me permets des écarts, des petites choses que personne ne sait, que moi seul sais, pas moi tout seul, parce que je ne suis pas tout seul pour faire des bêtises. Je n'honore pas mon engagement. À quel moment est-ce qu'on peut honorer son engagement? C'est quand on dit « je m'engage », mais je fais en sorte que tout ce qui peut m'empêcher de pouvoir honorer mon engagement, je puisse écarter ça. Alors on n'a plus d'excuses. Le mari ne veut pas dire « oh mais excuse-moi, cette femme était trop belle », qui fait « oh là 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 ». Oh, excuse-moi, c'est un moment de faiblesse, excuse-moi, pardonne-moi, elle était trop, c'était trop. Non ! Je m'arrangerai pour que, si elle est trop, je m'enfouis. Elle va à l'est, moi je vais à l'ouest. Honorer son engagement, c'est aller plus loin que simplement tenir son engagement. C'est faire en sorte que mon engagement devienne quelque chose qui peut épanouir l'autre. C'est bonifier mon engagement. C'est le rendre vraiment bon, le rendre vraiment chouette, être dedans à fond. Être fidèle en tant que chrétien, c'est faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est être prêt à s'en tenir à ce que Dieu nous dit. Si Dieu s'arrête à une conception, on s'arrête là. Un exemple, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à vous et à vos enfants en perpétuité, afin que vous mettiez en pratique toutes les paroles de la loi. Deutéronome 29:9. Et si je veux dire, ok, les choses cachées, purées, sont à l'Éternel, mais quand même pas tout. Il y a quand même des choses cachées que moi je peux connaître. Il y a quand même des secrets que moi je peux savoir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dépasser le cadre que Dieu m'a déterminé. Je suis en train de désobéir quelque part à Dieu. S'en tenir à ce que Dieu dit. Mais être fidèle, c'est aussi être vrai. Être vrai. Nous sommes dans une société des hypocrites. Nous sommes dans une société des gens faux. C'est pas pour rien que aujourd'hui, la médisance devient un petit bonbon que nous mangeons très agréablement. Parfois, on attrape des caries avec ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens peuvent te dire « Oh, t'es belle aujourd'hui, Alexandra !» Et puis derrière le dos, « Qu'est-ce qu'elle est moche, Alexandra !» Non, les gens sont fous aujourd'hui. Et on dit, je vais te donner un coup de main au boulot. Je vais t'aider, Gaston. Je vais t'aider. Tu ne connais pas ça. Je vais t'aider. Et puis, on confie chez le directeur. Oui ou non? C'était des gens faux, des gens hypocrites, des gens qui ne veulent plus simplement se dévoiler. Combien sommes-nous à souffrir de ne pas pouvoir dire en face à l'autre, vous savez, moi, la nuit, quand je dors, j'ai peur.
Hey, tu peux pas le dire, hein. Ils vont se moquer de toi, hein, Mathieu. Ils vont se moquer de toi si tu dis ça. Parce que tu te dévoiles. Dans cette société, on ne sait plus être soi-même. On ne sait pas être vrai. Un homme, une femme fidèle, c'est quelqu'un qui est vrai avec les autres. Il est tellement vrai avec les autres que les autres peuvent compter sur lui. Moi, j'ai une jeune fille de l'église d'Auvelay. Mes enfants rigolent beaucoup avec cette histoire parce que souvent, c'est comme ça avec elle, systématique. C'est une fille. Bon, on dirait qu'elle est convertie. Mais elle en fait des bêtises, mais des bêtises, quoi. Vous savez quoi? Elle vient me raconter ses bêtises. Je lui dis, mais tu sais que je vais te dire que c'est pas bien. Il dit, oui, je sais. Je dis, tu sais que je vais te dire que, bibliquement parlant, tu peux pas faire ça. Il dit, oui, je sais. Je dis, pourquoi tu veux me le dire alors? Il dit, parce que j'ai envie d'entendre comment tu vas encore m'attaquer là-dessus. Comment tu vas me critiquer, ça va m'aider à dire que je laisse tomber ça. Elle me fait confiance parce qu'elle sait que je ne la mentirai pas. Je ne lui dirai pas que ça c'est vrai alors que c'est pas vrai. On a besoin d'être vrai aujourd'hui. La fidélité, c'est être vrai avec soi-même. Être vrai avec les autres. Être vrai avec Dieu. Oh, c'est facile d'être vrai avec Dieu parce que si tu es faux avec lui, il te voit. Hein? Il voit. Mais être vrai avec les autres, on peut jouer de la comédie pendant toute une vie. Être vrai avec soi-même, on peut se jouer la comédie. Être fidèle, c'est construire un chemin vers la confiance. La confiance parce qu'on est régulier à sa tâche. La confiance parce que ce qu'on fait, les autres peuvent dire, ok, je peux compter sur lui. N'est-ce pas rassurant pour nous tous quand on a un collègue de travail et qu'on sait que quand on a difficile, on peut compter sur ce collègue-là. N'est-ce pas magnifique et rassurant? N'est-ce pas rassurant d'avoir un conjoint, je parle à ceux qui sont mariés, d'avoir un conjoint sur qui on peut compter? Je fais une erreur, je fais une belle boulette, mais je sais qu'il ne va pas me crier dessus, il va m'écouter, il va comprendre. Je sais que ce conjoint est là pour moi. N'est-ce pas rassurant pour les enfants de savoir que je peux compter sur mon père et sur ma mère à tout moment, quelle que soit la bêtise que j'ai faite, quelle que soit où je suis, comme je suis? N'est-ce pas rassurant d'être dans une église où je peux compter sur mes frères et mes sœurs? On n'a aucune crainte. J'ai des problèmes, je peux leur en parler. Ils savent m'aider, ils m'aident. Ils ne savent pas m'aider, ils vont me dire non, je ne sais pas t'aider, je vais prier pour toi. Et ici, je ne parle pas de la fidélité simplement en termes de la qualité de service que je rends, l'attitude magnifique que j'ai, la régularité dans la tâche que j'ai, la continuité, la permanence, le fait d'être là toujours quand il le faut. Si je dis, je m'engage à faire telle activité, je suis là pour cette activité-là, je m'engage à aller jusqu'au bout avec toi, je vais jusqu'au bout avec toi, même quand c'est fatigant. Je ne parle pas que de ça. Je voudrais que nous comprenions en tant que chrétiens, et c'est peut-être ça le plus important à mes yeux, que nous comprenions que la fidélité, c'est le fait que je suis un modèle pour les autres. C'est-à-dire que ma façon de vivre suscite chez les autres l'envie de faire comme moi. L'envie de faire comme moi parce que, à travers ce qu'ils voient en moi, dans mon attitude, ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la relation avec Dieu. Ils voient Dieu. Être fidèle pour donner envie aux autres d'être fidèles à Dieu. Pour donner envie aux autres d'aimer et de servir Dieu. Être une espèce de modèle. Imaginez-vous un tel chrétien. Un chrétien fidèle dans son culte personnel avec Dieu. Vous savez, c'est quoi un culte personnel? Je ne parle pas chinois, j'espère. C'est quoi un culte personnel? Quelqu'un peut me dire ça comme ça rapidement? Je vois que tout le monde a capté la même chose. Non, pas toi. Toi, tu sais. Non, pas toi. Rebecca, culte personnel. La relation qu'on a avec Dieu, oui. C'est l'ensemble de tout ce que nous faisons à titre personnel avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible, peut-être les différentes petites choses que nous faisons, que nous ne voulons pas que les gens voient. Je donne de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Je rends service discrètement à quelqu'un. Parfois, il ne le sait même pas, etc. Ces petites choses, ça fait partie de mon culte personnel. Être fidèle. Imaginez un chrétien qui est fidèle dans son culte personnel avec Dieu. Fidèle dans son service chrétien. Fidèle à son église. À son église. J'oserais même pas dire fidèle à son pasteur. Parce que vous risquez de me dire, il commence à nous emballer, à nous embrigader. Pourtant, c'est la réalité. Combien c'est rassurant pour un pasteur d'avoir des gens, il arrive à tout moment dans l'église, dit, ou même quand il pense, il dit, ah, Samuel, ouais, ça c'est mon gars sûr. Ça c'est mon fils qui dit toujours ça. Mon gars sûr. Ça veut dire quelqu'un sur qui je peux compter à tout moment. Hein? Imaginez comme c'est rassurant d'avoir des gars sûrs. Quelqu'un, pour un pasteur, il sait que celui-là, il ne me trahira pas. Il ne sera jamais de travers avec moi. On travaillera toujours main dans la main. On sera toujours dans la vérité. On sera toujours dans la transparence. Waouh! C'est rassurant. Pour l'Église, de savoir que, waouh, on peut compter sur la personne. Fidèle à ses frères et sœurs de l'Église. Fidèle à ses amis, à sa famille. Alors, imaginons maintenant un instant que nous sommes ce chrétien-là, cette chrétienne-là. Imaginons ça un instant. Imaginons ce que serait alors notre Église. Qu'est-ce que serait alors notre famille? Imaginez quelle image nous donnerons de Dieu. Pensez-vous que cela est impossible? Question à dessous. Pensez-vous que cela est impossible? Répondez-moi. Je sais que vous êtes déjà fatigué, assommé. Bon, d'accord. Mais répondez quand même. C'est juste oui ou non. Pensez-vous que cela est possible?
Non.
Wow! Au moins, il y a une réponse claire qui sort. Eh bien, mes amis, je vais vous dire, cela est possible. Pourquoi? Galates chapitre 5, 22, verset 22. Regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Oui, ça traduit la foi. Mais c'est la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Autrement dit, l'aventure de la fidélité est possible. Pourquoi? Parce que si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous sommes devenus chrétiens, alors la nature divine est en nous, alors nous portons le fruit de l'Esprit. Et parmi le fruit de l'Esprit, il y a la fidélité. La capacité d'être fidèle existe en nous. C'est le diable qui nous emmène à dire « Ouais, c'est impossible. » Parce que lui, il veut absolument que nous soyons découragés, que nous ne soyons pas capables de voir la réalité. Mais nous avons cette capacité en nous par le Saint-Esprit. Nous l'avons. Qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est d'activer cette disposition. Le bouton est de notre côté, c'est comme l'interrupteur. Nous avons à l'activer. Dieu cherche ce genre de personnes. Ce matin, je nous invite tous à répondre à la fidélité de Dieu à notre égard, par notre propre fidélité. C'est-à-dire par notre engagement à être ce que Dieu veut que nous soyons et à faire ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous attend de nous, d'être constant avec cela, d'exercer la bonté que Dieu nous demande d'exercer, d'exercer le pardon que Dieu nous demande d'exercer, d'exercer l'amour que Dieu nous demande d'exercer, de vivre la dimension de vie que Dieu nous demande et de persévérer dans cette tâche-là. Ce n'est pas impossible parce que les dispositions spirituelles sont en nous. Je peux vous donner une batterie de versets bibliques qui le montrent. Voilà, vous avez du boulot. Nous avons du boulot. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous ne sommes pas seuls pour faire cette tâche-là. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, je sais que vous êtes fidèles. Je sais que beaucoup s'efforcent d'être fidèles. Et merci à tous ceux qui sont vraiment fidèles au Seigneur. Merci à vous parce que le fait d'être là présent, c'est aussi une marque de fidélité.
Que le Seigneur vous bénisse, mais demandons à Dieu d'être encore fidèle et encore, et de développer cette disposition afin de pouvoir le glorifier. Amen.